Vous êtes sur RTL.
8h01.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
La lassitude et la colère après les inondations du week-end sur la Côte d'Azur.
A-t-on tiré les leçons des intempéries de 2015 qui avaient fait 20 morts dans la région de Nice? Ce sera la question du 8h. Le gouvernement dévoile enfin son plan contre les violences conjugales. Des centres de parole pour les agresseurs vont être créés partout en France. Parfois, l'expression et l'écoute permettent de changer.
T'es voir un psy pendant quasiment 2 mois. Parlant, on arrive à dégager la haine qu'on en a en soi, qui fait que, on cogne.
Témoignages et reportages dans ce journal. Et puis un éleveur du Cantal condamné à payer 8000 euros à ses voisins. Il ne supportait pas l'odeur de ses vaches. Vous l'entendrez, il est très en colère.
La météo, Louis Baudin.
Oui, avec le retour d'une perturbation par l'ouest, elle va traverser toute la France avec beaucoup de nuages et peu de précipitations. Mais enfin bon, globalement, on aura du mal à voir le soleil, sauf dans l'ouest où il reviendra cet après-midi avec encore quelques averses. Non, la bonne nouvelle, c'est que près de la Méditerranée, là, le soleil va s'imposer. Fini les intempéries. Et côté température, plutôt une certaine douceur pour la période, avec 9 à 10 degrés dans le nord-est, mais 12 à 16 degrés dans les autres régions et même 16 à 18 près de la Méditerranée.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
On va tout de suite dans l'une des communes les plus touchées par les inondations du week-end au Muy dans le Var. 9000 habitants surpris samedi par la brutale montée des eaux. La décrue est amorcée. On va pouvoir désormais constater l'ampleur des dégâts. Bonjour Étienne Baudu.
Bonjour.
Vous êtes avec un homme qui dirigeait jusqu'à vendredi une entreprise de matelas. Je dis jusqu'à vendredi parce qu'aujourd'hui, tout a disparu.
Oui, avec Philippe Sassy, le patron de la Maison du Lit, un magasin qui est à la sortie du Muy et qui, tout à l'heure, on est allé ensemble sous le magasin pour constater les dégâts. Sous le magasin, il y a un entrepôt où tout était entreposé et qui a été noyé par les flots depuis samedi.
On est dans la zone où se trouvent les 350 pièces de matelas et sommiers qui sont stockées et destinées pour ma clientèle, camping et particulier. Voilà.
Tout est perdu ?
Tout est perdu, complètement. Il n'y a plus rien de récupérable là-dedans. Ça ne se sèche pas. Une fois qu'ils sont imbibés d'eau, c'est fini. En plus, il y a beaucoup de matelas qui sont avec des ressorts à l'intérieur. Non, c'est fini. La mousse, elle jaunit, c'est fini.
Voilà, alors je suis avec Philippe dans son magasin qui lui aussi a été inondé sous 1 mètre d'eau samedi. Alors Philippe, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? C'est en fait un parcours du combattant qui vous attend?
Mais c'est ça, le parcours du combattant, ça va être les experts, le comptable, essayer de trouver des solutions. J'ai mon épouse qui est salariée dans l'entreprise, il faut que je voie comment on peut maintenir un salaire, je sais pas, j'ai des frais, j'ai des loyers, j'ai... Et là, il n'y a plus rien. Regardez l'état du sol. La chape s'est carrément fendue sur toute la longueur du magasin. Donc, il est inexploitable. Il faut faire un inventaire de tout ce qui a été détruit. Sortir, ça va être un parcours du combattant, comme vous dites. Vider tout le magasin. Vider et puis constater. Faire venir, attendre l'huissier, je ne sais pas. Je suis perdu. Je ne sais plus où j'en suis, là.
Parce qu'en 94, vous n'aviez pas été inondé comme d'autres. Et c'est donc la première fois que vous allez affronter tous ces problèmes.
Ben, c'est-à-dire qu'en 94, j'exploitais pas, moi, ici. Donc, moi, c'est la première fois qu'il m'arrive une catastrophe comme ça, que je vis une catastrophe comme ça. C'est la première fois.
Voilà, et vous l'entendez, Philippe est désemparé et il ne sait pas bien encore comment tout va se dérouler ces prochains jours.
On entend effectivement son émotion. Merci Étienne Baudieu en direct du Muy. Dans le Var et les Alpes-Maritimes, les crues ont fait 4 morts et 1 disparu. Plus de 1500 foyers sont par ailleurs toujours privés d'électricité ce matin.
Les habitants de la région entre colère et lassitude, les inondations sont régulières. Celle d'octobre 2015 avait fait, nous le rappelons, 20 morts. Des leçons ont-elles été tirées depuis sur la manière d'alerter le danger? C'est la question du week-end.
Avec vous Jacques Serret, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui a changé sur ce front en 4 ans?
Eh bien la prise de conscience des risques, aussi bien par les habitants que par les services de l'État. En 2015, beaucoup n'avaient pas pris au sérieux l'alerte orange émise par Météo France et la gravité du phénomène qui allait arriver. La majorité des causes de décès étaient alors liées à des comportements inadaptés. 9 personnes avaient notamment perdu la vie en tentant de sortir leur voiture de parking souterrain. La vigilance orange était banalisée. Depuis, en 4 ans, il y a eu plusieurs réunions d'information entre maires et préfectures, ce qui a permis de mieux gérer la situation ce week-end. Dès la mise en place de la vigilance vendredi à 16h, tout le monde a très vite réalisé l'importance du phénomène, explique une fonctionnaire. Et cela d'autant plus quand, contrairement à 2015, samedi, les 2 départements ont été placés en vigilance rouge, qui inclut le déclenchement des sirènes.
Bon, on imagine que tout n'est pas parfait. Que faut-il encore améliorer?
Eh bien, ces sirènes, justement. C'est un point qui fait débat au sein sein même des préfectures, oui, elles préviennent les habitants du danger. Le problème, c'est que tout le monde ne les entend pas forcément. Et puis surtout, cela contribue à saturer les centres d'appel de secours. Et on l'a constaté ce week-end, de nombreux habitants paniqués ont composé le 17 ou le 18 pour comprendre pourquoi les sirènes retentissaient. Comme pour les attentats, les préfectures laissent à penser que le plus efficace serait le développement d'un système d'alerte avec des SMS explicites envoyés sur les téléphones mobiles de la zone géographique.
La question du 8h avec Jacques Sauret.
RTL Matin 8h07.
C'est en quelque sorte un premier aperçu de la grève du 5 décembre.
Un TGV sur deux au départ de Paris pour les Hauts-de-France ne circulera pas aujourd'hui et demain. Mais rien à voir avec la mobilisation contre la réforme des retraites. Vous êtes à Lille pour RTL. Bonjour Franck Hanson.
Bonjour.
Les cheminots protestent contre les changements d'horaire à venir. En quoi est-ce un problème ?
Eh bien, pour les conducteurs de TGV d'abord qui restent très mobilisés ce matin, ce sont les rythmes et les charges de travail qui devraient augmenter. La SNCF entend proposer davantage de trains. Des négociations sont donc menées avec la direction pour obtenir notamment des compensations financières et c'est là que cela bloque. Par contre, pour les usagers, ces nouveaux horaires suscitent déjà beaucoup d'inquiétudes pour les trains à grande vitesse, mais aussi surtout pour les liaisons TER. Par exemple, sur 1250 trains régionaux, 850 vont voir leur horaire modifié de quelques minutes parfois, mais jusqu'à 20-30 minutes. Et donc, pour les familles, c'est toute une organisation chamboulée. Pour les gardes d'enfants, l'école ou l'arrivée au travail, il devrait y avoir plus de directs vers la métropole de Lille, des rames plus longues, mais certaines gares nordistes pourraient pâtir de cette réorganisation. On vous a déjà parlé sur RTL du maire de Templeuve qui s'est battu pour garder ses TER du matin. Des abonnés qui vivent dans le nord à Douai et travaillent à Paris pourraient aussi déménager à la SNCF en Hauts-de-France. Décidément, tout n'est pas toujours possible.
Merci Franck Hanson en direct de Lille. Notez que les deux prochains TGV Lille-Europe pour Paris prévus à 8h13 et 8h42 sont supprimés. La grève du 5, elle s'organise et le gouvernement tente toujours de circonscrire l'incendie annoncé. Syndicats et patronats sont reçus aujourd'hui et demain à Matignon. La tâche sera rude. Même la CFDT et le MEDEF, habituellement conciliants, demandent à l'exécutif de sortir de l'ambiguïté. Philippe Martinez, le leader de la CGT, sera bien présent demain. Il l'a dit hier sur RTL. Et sans surprise, en grand jury, il a ironisé sur la proposition du patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, de réquisitionner des grévistes. Pourquoi pas supprimer l'article 1 de la Constitution tant que nous y sommes? C'est l'article qui grave dans le marbre le droit de grève en France.
Eh bien, on y débattra à 8h20, justement, avec Bruno Retailleau et avec le délégué syndical Sudrail, Fabien Villedieu.
Indiscrétion RTL, le parti En Marche va réactiver son réseau de militants, comme il l'avait fait au début de la crise des Gilets jaunes. Objectif, mieux sentir le terrain et voir si les Français suivent plutôt le gouvernement ou les grévistes.
Il est 8h09.
À Hong Kong, raz-de-marée anti-Pékin dans les urnes.
Sur le papier, des élections locales qui habituellement n'attirent pas les foules, mais en pleine révolte contre les autorités chinoises, elles ont fait le plein. Cette fois, participation record, plus de 7 Hongkongais sur 10 se sont déplacés pour voter et surtout, les candidats pro-démocratie sont arrivés largement en tête. Il est milliardaire new-yorkais comme Donald Trump, mais la comparaison s'arrête là. C'est en tout cas ce que va tenter de faire croire désormais Michael Bloomberg, puisque c'est de lui qu'il s'agit. L'ancien maire républicain de New York se lance dans la course à l'investiture démocrate pour faire tomber Donald Trump. Il a déjà investi dans de coûteux spots de campagne à la télévision. Un Français et un Mexicain enlevés hier au Mexique. Les deux hommes faisaient une excursion. Ils ont été interceptés par un groupe armé. Les enlèvements se multiplient dans le pays depuis le début de l'année.
Dans un instant, le gouvernement dévoile son plan contre les violences conjugales. Restez avec nous.
RTL Matin.
RTL 8h12, la suite du journal Jérôme Florent, Yves Calvi.
Un milliard, pas des bobards. Le collectif féministe Nous Toutes attend beaucoup des annonces du gouvernement contre les violences conjugales.
Édouard Philippe lève le voile dans moins d'une heure en clôture du Grenelle lancé début septembre. Une cinquantaine de mesures difficiles à chiffrer entre celles qui sont déjà lancées et celles qui le seront plus tard. On retiendra déjà celle-ci. La création de centres réservés aux hommes violents. Il y en aura deux par région. Et vous allez l'entendre, les agresseurs ont juste parfois besoin de mettre des mots sur leurs gestes pour s'extirper de la spirale de la violence. Il existe déjà des groupes de sensibilisation depuis une dizaine d'années, comme à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. RTL en immersion, signé Agnès Bonfillon.
Les prises d'alcool pour oublier les problèmes à la maison, voilà, bagarre, tout ce qui s'ensuit.
Vous avez jalousie en fait. Hein.
Comme à chaque fois, lors du premier tour de table, les participants tentent de se justifier. David Brossard anime ses stages, il y est habitué.
On va entendre souvent les stagiaires dire « Oui, je suis là, mais madame, elle n'est pas là. Ah oui, mais nous, on s'occupe des sauteurs. Hein. »
Cette forme de déni est immédiatement pointée du doigt par les intervenants.
Il y a eu un mauvais passage. Maintenant, tout va bien.
Vous êtes quand même là.
Oui, il y a eu un petit problème.
Pour pas minimiser.
disait, monsieur. Il n'y a pas eu un petit problème, il y a eu un problème. Moi, je suis là pour vous le rappeler en tant que délégué du procureur.
Au fil des heures, la parole se libère. Et lors de la première pause, Thomas, 41 ans, qui a accepté cet accord avec le parquet, semble enfin prendre conscience de la gravité de son geste.
C'est elle qui m'a agressé en premier. Mais bon, après, je reconnais que bien sûr, ça aurait pu finir beaucoup plus mal. Elle aurait pu tomber sur la tête, mourir même, ça c'est clair.
Au-delà du déni pour l'animateur du stage, il y a une autre constante. Certains parlent très peu, restent prostrés sur leur chaise. Et c'est plutôt mauvais signe.
Je préfère quelqu'un quand même qui a peut-être tendance à déborder sur certaines choses que des personnes qui s'expriment que très peu, oui, non, et qui n'ont pas verbalisé les choses. Parce que ça dénote un manque de capacité à utiliser les mots pour parler.
Et quand il n'y a pas les mots, eh bien ce sont les poings qui prennent le relais. En arrivant le matin, certains pensaient, comme Maxime, que c'était de l'histoire ancienne. Il a fait de la prison, a arrêté de boire, et pourtant... En sortant du centre.
Ça fait un moment que je vois plus le psy, mais là je pense que je vais y retourner parce qu'il y a quand même d'autres choses que j'ai pensé qui m'ont mis la puce à l'oreille que bah, j'ai encore des choses à travailler.
Tous repartent avec des contacts pour une médiation, par exemple, quand ils sont encore en couple. Car oui, la plupart d'entre eux sont toujours avec leur compagne.
Plus de mal, et puis c'est tout. Si on n'y arrive pas, si on n'arrive plus à se comprendre, au mieux tourner la page.
RTL en immersion, signé Agnès Bonfillon. C'est confirmé à l'instant, LVMH et le joaillier Tiffany officialisent leur union pour 16,2 milliards de dollars. C'est la plus grande acquisition dans l'histoire du groupe du milliardaire Bernard Arnault. En football, on retiendra que l'OM a retrouvé la deuxième place du classement en battant Toulouse 2-0, Marseille dauphin du PSG. Bordeaux, de son côté, a battu Monaco 2-1, match nul, 0 partout entre Saint-Etienne et Montpellier.
L'histoire du jour ?
Il y en a décidément qui ne supportent pas les odeurs de la campagne. Un éleveur bovin du Cantal a été condamné à payer 8000 euros à ses voisins, un couple de retraités qui se plaignait d'être incommodé. L'exploitation est dans la famille depuis 6 générations. Écoutez Nicolas Bardi avec Romain Hougue.
Ça m'a un peu dépité, pour tout vous dire, puisque en fait ils nous reprochaient d'être agriculteurs. C'est quand même ça qui est assez énorme, c'est-à-dire qu'ils supportaient plus l'odeur des vaches, l'odeur du fumier, l'odeur des bottes d'enrubanage, les animaux, enfin voilà, tout ce qui est lié à l'activité agricole, quoi. Donc moi, je suis agriculteur là. Mes parents, mes grands-parents étaient agriculteurs là. Enfin voilà, on n'a jamais eu de problème. On a une activité agricole, tout ce qui est plus normal. On élève des vaches à la campagne, ni plus ni moins. Donc aujourd'hui, il faut qu'on justifie de notre travail tous les jours. Et qu'en plus, voilà, on indemnise des gens qui ne sont pas contents de leur sort, quoi. À un moment, c'est plus possible.
Voilà, puis quand on s'installe à 800 mètres d'une exploitation, il faut peut-être savoir à quoi s'attendre.
Facile d'être agriculteur aujourd'hui. C'était donc le journal de Jérôme Flora.